Radio Cassine, Grand Témoin.
Il a été vice-gouverneur des provinces du Katanga, du Bas-Congo et de Kinshasa, actuellement secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés. Rigobert Mopondo Makunji Menikongo est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Rigobert Mopondo, soyez le bienvenu.
Merci beaucoup.
Vous le savez, le 20 juin, l'humanité célèbre la journée mondiale des réfugiés. Combien de réfugiés y a-t-il en RDC? Combien de réfugiés congolais y a-t-il dans les pays voisins? Dans quelles conditions vivent ces réfugiés? Quelles sont les mesures d'accompagnement pour leur prise en charge? Nous tenterons de répondre avec vous à toutes ces questions au cours de cet entretien. Rigobert Mopondo Makunji Menikongo. Vous êtes chef de groupement Menikongo du secteur Kwenge, territoire de Bulungu, district du Kwilu dans la province du Bandundu. Que signifie votre nom?
Mon nom, difficile peut-être à le décider, mais la tradition a voulu que ce nom, Mopondo, représente l'arc-en-ciel, d'une part, et de l'autre côté aussi une besace. Quand nous allons dans le Kivu, Mopondo signifie la gaule, donc le grand bâton avec lequel on pousse les pirogues.
Ah bon,
voilà, ça c'est Mopondo. Menikongo, ça c'est le nom chefal. Je suis de la tribu Soukou et les chefs Soukou s'appellent Menikongo.
Et Mafunji?
Mafunji, ça c'est le nom de mon grand-père. L'oncle de mon père, qui était chef de groupement aussi. Et voilà, donc je détiens le nom. Dès la naissance, déjà, on dirait que j'étais prédestiné.
C'est à Kikwit, dans le Bandundu, que vous voyez le jour. En janvier dernier, vous avez totalisé 62 ans. Racontez-nous brièvement comment on accède au trône chez le Soukou.
En fait, le Soukou, c'est un régime matriarcat, comme beaucoup de régimes Congo. Mais il y a des exceptions. J'en fais partie parce que c'est mon père qui était chef de groupement. Et quand il décédé, sa famille, donc les neveux de mon père, qui devaient en principe régner, ont semble-t-il suivi les instructions de mon père en me désignant à leur place comme leur chef de groupement. Donc, ça c'est du côté de mon père, donc ça c'est tribu Soukou. Donc j'ai été désigné par la famille chefale, investi par la coutume et reconnu par le gouvernement à travers un arrêté ministériel.
Héritier du trône des Menikongo, quel genre d'enfant étiez-vous?
Écoutez, comme un enfant normal, je crois assez obéissant. J'aimais beaucoup mon père et ma mère. J'ai vécu entièrement à leur côté jusqu'au moment où je les ai quittés pour les études universitaires.
Quel souvenir un héritier du trône peut-il garder de son enfance?
En fait, de voir le règne splendide de mon père, parce que il a pris le pouvoir aussi tard, parce qu'il avait délégué ses pouvoirs à d'autres. Lui, il était dans la politique. Il était un sénateur, à la première législature, sénateur chef coutumier. Et quand il a terminé tout son mandat et tout le reste, il est entré prendre le pouvoir. Et j'ai le souvenir d'un père excellent comme chef. Et j'espère suivre son modèle.
Vous êtes conseiller juridique et porte-parole de l'association des chefs coutumiers du Bandundu. Quelle est aujourd'hui la situation des chefs coutumiers dans cette province?
Les chefs coutumiers dans le Bandundu traversent une période assez difficile, dans la mesure où, pratiquement un peu dans l'ensemble du Congo, le pouvoir coutumier est un peu dévalorisé. Or, la coutume, et les chefs coutumiers, c'est l'encadreur de la population. Je crois qu'il faut lui reconnaître sa place et lui redonner son pouvoir pour remettre la population au travail. Parce que 90% de notre peuple est constitué des paysans, des villageois. Et le seul pouvoir vrai qu'ils suivent encore, c'est le pouvoir coutumier. Redonner de prestance, redonner la valeur à ses chefs, va contribuer à donner un ensemble d'instruments qui vont permettre le redémarrage du Congo dans la voie du travail et du progrès.
Vos études primaires et secondaires, vous les faites au collège Albert Ier, l'actuel collège Mobutu de Kinshasa. Rappelez-nous quelques noms d'amis d'enfance que vous avez encore à l'esprit.
J'ai le professeur Yav, le professeur Lié, que beaucoup de monde connaît.
Professeur Yoka.
Yoka Lié et André Yoka. J'ai André Mibulu Mukini. J'ai plein de...
Donc vous êtes de la même promotion que l'abbé Dominique Kahn.
Oui.
Que nous avons reçu dans cette émission.
Je suppose.
Le professeur Yoka aussi.
Le professeur Yoka, c'est la même génération.
chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Rigobert Mupondo Mafunji Menikongo, vous êtes ancien vice-gouverneur des provinces du Katanga, du Bas-Congo et de Kinshasa, actuellement secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés. En 1970, vous devenez licencié en droit de l'Université d'Aix-en-Provence en France et en 1971, vous vous spécialisez en droit des affaires à la même université. Comment arrivez-vous en France?
Je suis arrivé en France en obtenant une bourse d'études. Je crois que c'est mon père qui avait sollicité cette bourse à l'époque. Et comme j'avais d'assez bonnes notes dans mes études secondaires, ça m'a permis d'obtenir cette bourse et d'étudier grâce à la coopération française.
Dès votre retour au pays entre 71 et 72, vous êtes responsable du service juridique de la Société financière de développement Sofidé. Pourquoi avez-vous quitté ce poste pour vous inscrire comme avocat au barreau de Kinshasa entre 72 et 73?
C'est ma vocation. Je pense que quand j'ai fait mes études de droit, je pensais devenir avocat. Mais quand je suis rentré au pays, on m'a offert ce poste d'une société qui venait de naître. Comme je m'étais spécialisé en droit des affaires, je croyais pouvoir aider au démarrage de la Sofidé.
Entre 77 et 79, vous commencez dans la territoriale en travaillant comme commissaire de zone élu de Mongafula. Qu'est-ce qui vous attire en politique finalement? Vous étiez mal à l'aise au barreau?
Non, je crois que c'était pas incompatible. Et ensuite, je vous ai dit que mon père, mon père lui-même a fait la politique. Mon père, c'est un combattant de l'indépendance qui était dans le PCA, Parti solidaire africain, avec le premier ministre actuel. Ce sont des grands compagnons de l'indépendance. Vous voyez donc, c'est en fait la tradition que j'ai suivie.
Entre 1979 et 88, vous travaillez tour à tour comme commissaire sous-régional assistant du Nord Kivu, commissaire urbain de Zongo en Équateur, commissaire sous-régional du Haut-Katanga, commissaire urbain de Kananga et commissaire sous-régional du Tanganyika. Qu'est-ce que vous retenez de cette riche expérience dans la territoriale?
Et je crois que c'est ça qui a façonné ma vie actuelle. C'est une très très bonne école, la territoriale. Et ça permet à l'homme d'abord de connaître son pays et à savoir diriger la société et les habitants. Parce qu'en fait, la territoriale, à ce niveau-là, c'est déjà une juridiction importante que la sous-région qui aujourd'hui s'appelle district. Là, vous êtes pratiquement le représentant du chef de l'État. Et vous coordonnez toutes les activités de l'administration. Vous devez veiller à la promotion de l'homme, de l'individu, puisque vous avez sous vous toute une population et toutes les structures de l'État que vous dirigez. Et ça, ça a contribué à me façonner. Je suis heureux aujourd'hui de me retrouver dans n'importe quel coin de notre République et de voir qu'il y a des gens qui me connaissent, de savoir que j'ai laissé peut-être un bon souvenir, puisque je ne me rappelle pas. Non, je suis un être humain, j'ai mes faiblesses, c'est tout à fait évident. Mais je crois avoir fait mon devoir en tant qu'administrateur du territoire, donc commissaire des districts, quand je suis commissaire sous-régional.
Et ça vous a permis aussi de découvrir ce beau et grand pays.
Oui, et ça c'est passionnant parce que au moins j'ai sillonné le pays du centre à l'est, à l'ouest et au sud du pays. Donc ça c'est la plus grande expérience que j'ai, de pouvoir aujourd'hui parler, quand on parle d'un coin de cette République, de pouvoir retrouver les repères de ce coin et de connaître un peu la mentalité, la psychologie des gens qui habitent ce coin. Et ça, c'est fantastique.
De 88 à 92, vous travaillez encore tour à tour comme vice-gouverneur du Katanga, de Kinshasa et du Bas-Congo. Pourquoi vous démissionnez en mars 92?
Mon accession au vice-gouvernorat, c'est une promotion. Vous voyez que j'ai commencé comme commissaire de zone bourgmestre, donc administrateur des territoires, et j'ai parcouru, et en fait, j'ai fait un cursus honorum véritable dans la territoriale. Et quand c'est fut arrivé le moment de la démocratisation, où les gens parlaient de la liberté, je considérais que je ne pouvais plus continuer à travailler sous le même régime que par le passé, parce que les gens avaient compris, moi avec, que c'est dans un cadre démocratique qu'on pouvait pouvoir faire développer et avancer le pays. Et je vous ai dit, j'ai une expérience de ce pays et je sais quelles sont les contraintes des blocages qu'ont connu le pays pour sa promotion et son développement. Donc, je me suis situé dans le contexte du temps pour pouvoir quitter cette fonction que j'assumais sous la direction du maréchal Mobutu et où, d'ailleurs, nous faisions le contraire des discours. On nous demandait de faire le contraire des discours qui étaient prononcés. Je me suis trouvé mal à l'aise pour pouvoir continuer.
De 93 à 96, vous êtes administrateur de Afroviking AB, société suédoise de la promotion culturelle africaine. Qu'est-ce que vous y avez fait concrètement?
Je me suis retrouvé en Suède parce que quand j'ai démissionné, j'ai subi la colère du pouvoir. J'ai été totalement pillé. Je suis resté qu'avec l'habit que je portais. Mon épouse, puisque je suis marié à une expatriée qui est suédoise, était déjà partie, Dieu merci, en Suède, parce que quand j'ai été pillé, j'étais seul à la maison, donc je n'ai pas connu, Dieu merci, pas de violence sur ma famille. Et je me suis exilé en Suède. M'étant exilé en Suède, je ne pouvais pas rester à ne rien faire. J'ai mis en place cette association Afroviking pour la promotion de la culture africaine. Donc j'ai pu encadrer les artistes africains. Et nous avions fait un grand club où s'exprimaient les artistes africains. Nous recevons des artistes qui venaient d'Afrique et nous faisons leur promotion en Suède.
Et cette association existe toujours?
L'association existe, mais nous l'avons cédée à d'autres acteurs.
Thank you.
été vice-gouverneur des provinces du Katanga, du Bakongo et de Kinshasa, actuellement secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés, Rigobert Mukondo Mafunji Meni Kongo est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. De 1999 à 2002, Rigobert Mukondo vous pressait comme conseiller juridique au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR à Kinshasa. Et depuis 2004, vous êtes le secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés. Allons dans la province du Katanga, où 180 réfugiés congolais qui vivaient en Zambie sont rentrés le lundi 16 juin dernier par la cité frontalière de Kasumbalesa, située à 90 km au sud de Lubumbashi. La majorité de ces Congolais ont fui le pays il y a près de 10 ans à cause des guerres à répétition qu'a connu la République démocratique du Congo. Ce jour-là même, chaque réfugié a pu se rendre dans une famille d'accueil à Lubumbashi ou dans ses environs immédiats. Le point avec Paul Kaboba.
Gazimoa Kisisi a fui Moba en 1998 et se veut positif. Pour lui, ce séjour dans les camps de réfugiés leur a au moins permis d'apprendre divers métiers qu'ils mettront à profit pour leur réinsertion. Pour notre vie, nous avons appris à planter des arbres. Nous avons appris à construire. Nos femmes ont appris à préparer la nourriture et à repasser les habits. C'est le chef de cité de Kasumbalesa qui a souhaité la bienvenue aux rapatriés au nom du gouvernement congolais. À Lubumbashi, c'est le bourgmestre de la commune de Lubumbashi qui a salué les tourné au nom de la ville. Alexander Beck, en charge du HR Lubumbashi, assure que ce même lundi, chaque retourné sera dans sa famille d'accueil. En deux jours, ces retournés auront fait plus de 1200 km de route, mais la joie de retrouver leur pays semble l'emporter sur la fatigue. Seuls les enfants de moins de 10 ans, nombreux dans ce groupe, semblent accuser le coup.
On va souhaiter bon retour aux villes à Lubumbashi, Mouindiabo, province à Katanga, Mouindiabo.
Lubumbashi, Paul Kaboba, Radio Okapi.
Merci Paul Kaboba. Rigobert Mukondo, qui peut-on considérer comme réfugié?
Le réfugié, c'est une personne qui fuit son pays, qui va vers l'étranger parce qu'il est persécuté et qui ne peut ou ne veut plus rentrer dans le pays puisqu'il ne peut plus être protégé par le pays. Donc la persécution peut être pour ses opinions, pour sa religion, pour son appartenance à un groupe ethnique. Donc ça, c'est la définition de la Convention de Genève. Mais au niveau de l'Afrique, la Convention de l'OUA, qui est l'UA aujourd'hui de 1969, a étendu le réfugié à ceux qui aussi fuient leur pays parce qu'il y a une guerre, il y a une agression dans tout ou une partie de leur pays et ils se retrouvent à l'étranger. Ces personnes sont considérées comme réfugiés.
Pouvez-vous dresser une cartographie des réfugiés en RDC?
En RDC, il y a deux volets en ce qui concerne la gestion du réfugié. Nous avons la gestion des personnes réfugiées dans notre pays. Nous avons des réfugiés qui sont venus d'Angola, de la République centrafricaine, du Congo Brazzaville, du Soudan, de l'Ouganda. Ce sont ces pays qui nous ont produit des réfugiés. Et ensuite, nous avons le volet des réfugiés congolais à l'étranger.
Donc c'est un peu vice-versa. Les 9 pays voisins nous envoient leurs réfugiés et nous envoyons nos réfugiés dans ces pays. Et
malheureusement, oui, puisque il y a eu des troubles dans notre pays qui a fait que les gens sont partis en refuge dans des pays voisins pour préserver leur vie. Et nous avons des réfugiés dans les 9 pays. Mais en Afrique, nous avons plus de réfugiés de 7 pays que 9, parce qu'il y a une stabilité au niveau de la Tanzanie et de la Zambie depuis l'accession de ces pays à l'indépendance. Si bien nous n'avons pas enregistré de réfugiés venant de ces coins du monde.
Alors, combien de Congolais sont-ils réfugiés dans ces pays voisins, dans les 7?
Dans les 7 pays, avec le rapatriement que nous avons commencé au niveau de la Tanzanie, de la Zambie, du Congo-Brazzaville, de la République centrafricaine et du Soudan. Il reste encore à peu près 350 000 Congolais réfugiés dans les 9 pays limitrophes.
Et combien d'étrangers sont-ils réfugiés en RDC?
En RDC, nous pouvons compter environ 200 000 réfugiés.
Quelles sont les mesures d'accompagnement que vous mettez en place pour la prise en charge de ces réfugiés se trouvant en RDC et à l'étranger?
En RDC, en fait, je participe dans les mesures d'accompagnement dans le cadre de la Commission nationale pour les réfugiés avec le concours du HCR, qui est l'organisation internationale chargée de la protection internationale de réfugiés, et ceux qui prennent en charge l'essentiel du poids de ces réfugiés. Et nous, en tant que représentants de l'organe technique de l'État, nous assurons au nom de l'État la protection juridique et administrative de ces personnes. Et nous veillons aussi à ce que le programme mis en commun par le HR soit bien appliqué dans le cadre de mesures d'accompagnement, parce que quand les gens arrivent, ils sont pris en charge par le gouvernement et les HR qui le met dans des sites pour ceux qui vivent dans le monde rural. Ils sont dans le site de réfugiés. Et là, on le prend en charge immédiatement parce que les gens viennent complètement démunis. Ils n'ont pratiquement rien que peut-être l'habit qu'ils portent. Il faut les habiller, il faut les nourrir, il faut les soigner, il faut veiller à l'école pour les enfants. Et tout ça, c'est le programme que le HR applique. Et nous, nous accompagnons le HR dans l'application de ces mesures. Et nous, spécialement, et pour l'État, dont le rôle, en fait, le réfugié, c'est le réfugié de l'État et pas du HR. Ça, nous devons le comprendre.
Et quelle est la part du gouvernement congolais, l'apport du gouvernement congolais dans le travail de la Commission nationale pour les réfugiés?
Le gouvernement congolais donne une protection juridique et administrative. Veille à ce que, au niveau de toutes les instances et structures de l'État, on observe les termes des conventions, la Convention de Genève et de l'OUA en ce qui concerne les réfugiés, notamment préserver leurs droits. Parce que le réfugié, quand il est dans notre pays, il a le même droit qu'un national, le droit aux études pour les enfants, le droit aux soins médicaux, le droit au logement, le droit à l'emploi. Et nous veillons à ce que cela soit respecté. Administrativement, nous les suivons. Et quand ils ont des problèmes, par exemple, ils ont un problème, un conflit de loyer, de logement, nous pouvons intervenir pour pouvoir obtenir un moratoire pour qu'on ne puisse pas mettre encore en difficulté ces gens qui sont déjà des vulnérables.
Et dernièrement, par exemple, les députés de la province orientale ont sorti un communiqué où ils étaient contre la relocalisation des FDLR. Alors, dans ce genre de situation, qu'est-ce que la Commission nationale pour les réfugiés peut faire?
Les FDLR, si on dit réfugiés, c'est dans le terme peut-être général du mot réfugié. Mais dans le cadre de la gestion statutaire des réfugiés, qui est défini par les conventions internationales et la loi congolaise, la loi 021 du 16 octobre 2002. Les gens armés, comme les FDLR, ne peuvent pas être considérés comme réfugiés. Donc ces gens sortent de notre mandat. Je comprends tout à fait la préoccupation des députés de la province orientale, puisque les FDLR, ce sont des gens en armes qui sont arrivés à la suite de guerres qui se sont déroulées au Rwanda. Ils sont arrivés en armes et ils commettent des méfaits sur les populations congolaises dans les zones où ils habitent. Maintenant, les relocaliser, nous ne sommes pas sûrs qu'ils ne vont pas continuer à commettre les mêmes méfaits. Je crois que c'est une solution qui doit être trouvée au niveau politique, puisque ces gens en armes ne sont pas considérés comme réfugiés. D'ailleurs, vous me posez la question de savoir si un soldat peut pas être réfugié. Bon, le soldat peut être réfugié, mais un groupe armé, les gens qui viennent en armes, qui entrent dans un pays avec leurs armes, sont pas des réfugiés, sont des soldats qui ont fui. Et nous avons malheureusement assisté à ces mouvements au niveau de l'Est quand il y a eu la guerre au Rwanda. C'était un mouvement mixte des gens qui ont fui, des civils que nous considérons comme réfugiés que nous gérons, et ces hommes en armes qui sont entrés, qui devaient être en principe désarmés dès leur entrée au pays. Ça n'a pas été fait. L'armée congolaise, à l'époque zaïroise, n'a pas pu les désarmer, et la communauté internationale ne nous a pas aidés à désarmer ces gens. Si bien que aujourd'hui nous sommes dans une situation un peu conflictuelle avec le pays voisin à cause de la présence de ces personnes. Les relocaliser en province orientale ne va pas résoudre le problème. Le Rwanda va toujours considérer que nous avons toujours des gens armés ou qui ont été formés dans le maniement des armes dans le pays et qui peuvent un jour repartir sur le Rwanda. Et tout ça, c'est pas un acte pacifique. Donc, le réfugié, c'est avant tout un acte amical. Donc, les gens qui viennent se réfugier chez nous, nous veillons à ce que, en application de lois et des obligations internationales, qui ne se livrent pas aux activités politiques ou aux activités subversives contre leur pays d'origine.
I'm going to go to the hospital. I don't be a nice that you never forget. I don't be a nice that you won't regret. I used to sleep, wanna make a bet on it. Cause you are by far the most beautiful girl I've been with so far. And tonight, girl, is your night. So go ahead and lay down your guard. Don't take it slow. I'ma let you decide the tempo. But one thing for sure, give me tonight, girl. Tell me if you feel me too. It's a joy ride, so into my world and enjoy the ride. I can make you feel like a kid in a candy shop. Give you all that I got, girl. Cause you are by far the most beautiful girl I've been with so far. And tonight, we're gonna go all the way. Gonna make you feel like a princess today. We'll take it slow. I'ma let you decide the tempo. But one thing's for sure, give me tonight, girl. Tell me if you feel me. Tell me if you feel me. Baby, that I'm feeling. Baby, that I'm feeling. I can go deeper, deeper. Tell me, girl. If you feel me. Baby, that I'm feeling. I can go deeper, deeper. If I can go deeper,
tendons lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Pourra-t-on un jour, Rigobert Mopondo, mettre fin au phénomène réfugié?
Et c'est le souhait de tout le monde, mais malheureusement, vous voyez, l'OHCR, qui gère sur le plan international les réfugiés, avait été conçu pour 5 ans. Mais maintenant, c'est depuis 51. Jusqu'à aujourd'hui, le HCR existe toujours parce que le phénomène des guerres, des conflits, de la persécution, des violences sur les gens, des attitudes contre le droit humain se multiplient dans le monde et ça crée toujours ces phénomènes de réfugiés. Mais le souhait serait que ça s'arrête, que nous ayons un monde pacifique, surtout nous en Afrique. Nous n'avons aucun intérêt à continuer à nous entretuer et avoir des conflits dans nos pays. Je crois que nous devons stabiliser nos pays parce que nous sommes un des peuples le moins développés du monde. Donc nous devons aspirer au développement. C'est la paix, la sécurité, la tranquillité qui peut nous amener au développement. Et ouvrir nos frontières, puisque les Blancs, en Occident, l'Europe, ils se sont battus. Ils ont fait des guerres où il y a eu des millions de morts. Mais maintenant, ils sont dans le cadre de l'Union européenne où il y a la libre circulation de biens et des personnes. Et ils nous montrent un exemple que c'est dans ce cadre-là seulement qu'ils peuvent être grands. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons pouvoir mûrir en Afrique et arriver aussi à ce genre de situation.
Pour terminer cette émission, Rigobert Mopondo, secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés, quel message pouvez-vous adresser à tous les réfugiés qui sont en RDC et qui vous suivent?
Les réfugiés en RDC sont dans un pays d'asile, un pays hospitalier. Il est vrai que nous ne faisons pas tout ce que nous devons faire pour les aider, mais ils doivent comprendre la situation socio-économique de notre propre pays, de notre propre population. Ce que nous leur donnons, le peu que nous leur donnons de bon cœur, puisque nous les avons accueillis, et nous veillons sur leur protection, nous continuerons à veiller sur leur protection.
Rigobert Mopondo, merci d'être venu à Grand Témoin.
Merci beaucoup, Alain.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions Rigobert Mopondo Mafunji Mini-Congo, ancien vice-gouverneur des provinces du Katanga, du Bas-Congo et de Kinshasa, actuellement secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés. Merci à Bob Landou qui était à la technique et à la réalisation. À la présentation Alain Irung, retrouvez cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net. où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grands Témoins. Merci à tous ceux qui nous suivent à Kanin Chen, c'est dans la province du Kasaï-Oriental et partout dans le monde.